RCF.
À la rencontre de la vie éternelle, c'est ce que nous faisons toute cette semaine à l'occasion de la Toussaint. C'est ce que nous faisons avec vous, Marina Kopsidas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chrétienne orthodoxe et avec vous, nous parcourons cette question, comment elle a traversé des penseurs de l'Église, en tout cas des mystiques, mais aussi des docteurs de l'Église, comment est-ce qu'ils ont compris ce qu'était la vie éternelle. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Simon, le nouveau théologien, qui va nous intéresser. Vous avez lu une partie de son œuvre, elle est immense, elle vous a passionné, c'est une œuvre poétique. Vous diriez que finalement, Simon, le nouveau théologien, a réussi à dire comme un poète, ce qui est parfois de l'ordre de l'indicible.
Vous avez raison, tout à fait. Soulignons qu'il est le troisième à avoir ce nom de théologien, après l'apôtre Jean le théologien, un très grand père de l'Église qui s'appelle Grégoire de Nazianze, et Siméon. Le nouveau théologien.
Pourquoi est-ce qu'on dit le nouveau théologien? Il a vécu au 9e, 10e siècle, 849-1022.
C'est venu dans son entourage, très, je dirais, spontanément. Et l'Église l'a reçu comme tel, compte tenu de l'importance de son message.
Vous nous dites qu'il n'y a que trois personnes qui portent ce nom de théologien. Pourquoi?
Tradition de l'Église, mystère de l'Église. La puissance... Jean le théologien, bien sûr. Mais les deux autres, qui sont des deux, pas disciples du Christ, sont sans doute par le rayonnement de leur œuvre et leur message.
Alors on se penche sur les écrits de Simon, le nouveau théologien. C'est un théologien qui va chercher à travers sa communauté à conduire chacun à rencontrer le Christ.
Il est un jeune homme né dans une noble famille et son père le destine à faire une carrière à la cour de l'empereur. Donc il est destiné à une vie brillante, presque on pourrait dire fastueuse. Mais il a en lui une foi déjà très profonde et une recherche de sens. Il fréquente assez souvent un monastère où il rencontre un moine qui s'appelle Siméon le Pieux. Son nom dit déjà beaucoup de choses, qui lui-même, paraît-il, était un mystique. Et c'est la vocation de ceux qu'on appelle des pères spirituels, c'est de donner aux croyants qui cherchent un petit peu, qui se cherchent, une parole de vie. Et cette parole de vie, il la transmet à travers Marc Lassette, et c'est relativement simple. Il lui dit de rechercher dans sa conscience, et que tout ce que la conscience lui dit, il faut le faire. Ça paraît à la fois simple, mais également très exigeant, et ce sera le fil conducteur de la vie de Siméon.
Est-ce que c'est une façon de lui dire que Dieu est en chacun de nous?
Vous avez raison, c'est une façon aussi de dire. Il faut le chercher.
Il faut le chercher.
J'allais dire à la fois à l'extérieur, mais au fond de nous-mêmes. Et donc, il va continuer sa vie mondaine, en fait, dans le monde, ce à quoi son père le destinait, tout en poursuivant sa recherche spirituelle. Et il lui arrivera quelque chose de tout à fait étonnant. C'est une expérience mystique éblouissante, alors qu'il est un jeune homme, un simple laïc. En général, l'expérience mystique est quelque chose de rarissime, qui est vécu par des ascètes qui ont des vies extrêmement retirées, au fond des déserts, et qui livrent totalement, livrés à leur vie de prière. Et là, à 20 ans, il a très clairement décrit cette première expérience mystique qui précède nombre d'autres expériences. Il en décrira une ou deux dans ses écrits.
C'est ensuite qu'il va diriger un monastère.
Il va attendre, il a 20 ans, et sans doute s'il continue à chercher, à méditer, à regarder dans sa conscience. Et c'est presque 7-8 ans après qu'il entre vraiment, qu'il a pris sa décision, parce que je crois que son père était très opposé. Donc là, sans doute, il y a une lutte. Et au bout de 7 ans, sa décision est prise définitive. Il passe d'un monastère à l'autre, et très vite, compte tenu de son érudition, de sa capacité aussi à partager cette vision et sa foi, il va être amené, au bout de 3 ans, à diriger le monastère, c'est-à-dire il est l'igoumène supérieur. Mmh. Et là, il aura en charge, sa vision, son obsession, d'amener tous les moines à exiger une vie ascétique extrêmement rigoureuse, parce que pour lui, c'est le seul moyen, mais qui conduit sûrement à une expérience mystique. Et il voudrait que tout un chacun ait accès à la lumière.
Mais c'est curieux, parce que lui, au départ, n'était pas spécialement ascétique.
Non.
Lors de sa première vision.
Pas du tout. Comme il le dit si bien, pas du tout. Effectivement, un jeune homme profondément croyant, qui prie beaucoup. C'est intéressant, parce qu'on a deux opposés. L'attirance du monde, et pourquoi pas, bon, après tout, faire une carrière quand on est un jeune homme avec une belle éducation, faire carrière à la cour de l'empereur, c'est un but tout à fait honorable. Et de l'autre côté, son attirance vers la lumière, vers Dieu, vers le Christ, qu'il va progressivement approfondir avec l'aide du Père spirituel pour prendre une décision définitive, on ne pourrait pas dire tardive presque, mais définitive, c'est tout sauf quelqu'un qui réagit. Qui est,
Alors cette belle histoire de Siméon, le nouveau théologien, on va la découvrir notamment à travers un extrait que vous avez sélectionné, que vous faites figurer dans votre livre « À la rencontre de la vie éternelle ». C'est simplement une précision dans cet extrait. On va commencer par parler d'un certain Georges. Qui est ce Georges ?
Georges, c'est lui, c'est son nom de baptême. Et quand il va entrer dans la vie monastique, il prendra comme nom de moine celui de son père spirituel. C'était Siméon le Pieux, et lui, il sera Siméon, qu'on appellera plus tard le nouveau théologien. Mais il s'appelait Georges, de son nom de baptême.
C'est le récit de sa première expérience mystique. On peut écouter cet extrait. Et c'est lu par le comédien Kevin Cavalin.
C'était un nommé Georges, guère avancé en âge, autour de 20 ans, qui habitait Constantinople. Beau de figure, l'habit, l'allure et la démarche très recherchées, que d'aucuns en concevaient à son sujet de méchants soupçons. De ces gens qui ne voient que l'enveloppe extérieure et jugent en mauvaise part la conduite d'autrui. Un jour, il était donc debout et disait « Ô Dieu, sois propice à moi, pécheur, d'esprit plutôt que de bouche. » Quand soudain sur lui brilla d'en haut avec profusion une illumination divine qui emplit entièrement l'endroit. Là-dessus, l'adolescent ne se rendit plus compte. Il oublia s'il était dans une maison ou s'il se trouvait sous un toit. Car il ne voyait de toutes parts que de la lumière. Avait-il seulement les pieds sur terre ? Il ne se rendait pas compte. Et il n'y avait en lui ni crainte de tomber, ni souci du monde, et rien de ce qui atteint les hommes et les êtres doués d'un corps n'atteignait alors sa pensée. Mais tout entier présent à la lumière immatérielle et lui-même, à ce qui lui semblait devenu lumière, oublieux du monde entier, il fut inondé de larmes, d'une joie et d'une allégresse inexprimables. Ainsi, au coucher du soleil, sensible succède cette douce lumière de l'astre intelligible, certifiant d'avance et garantissant la lumière sans déclin qui doit lui succéder. Et c'est normal. Car l'amour de ce qu'il cherchait l'avait fait sortir du monde, de la nature, de toutes les réalités, avait fait de lui tout entier la chose de l'esprit, une seule lumière. Et cela alors même qu'il habitait au milieu de la ville, avait la responsabilité d'une maison, le souci d'esclave et d'homme libre, et que toutes ses actions et occupations étaient accordées à la vie présente.
Oui, on plonge, vous le disiez, dans la vie d'un homme presque ordinaire.
Exactement. C'est les deux extrêmes qu'il montre d'ailleurs avec beaucoup de talent dans ses écrits, et comment la tension, on peut dire, qu'il y a entre ces deux extrêmes de sa vie d'homme dans le monde et de sa vie de mystique.
Qu'est-ce qu'il dit de la Trinité? On l'évoquait en tout début d'émission. Comment est-ce que lui, il la décrit?
Ben pour lui, pour finalement tous ces grands hommes de foi mystiques, la présence de l'esprit est essentielle. C'est par l'esprit qu'il communique. C'est par l'esprit qu'il reçoit la grâce de Dieu et qu'ils sont ouverts à cette grâce. Sans l'esprit, ils sont déconnectés, pourrais-je dire.
Et on va laisser le dernier mot à Simon, le nouveau théologien. Merci beaucoup, Marina Kopsidas, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Et je laisse ces dernières phrases, cette conclusion, à Simon, le théologien.
Le commencement de la vie, pour moi, c'est le terme, et le terme, pour moi, le commencement. D'où je suis venu, je l'ignore. Où je suis, je ne sais. Et maintenant, où je m'en irai, je ne puis le connaître, malheureux. Je nais terre de la terre et corps d'un corps corruptible, oui, d'un être corruptible. Et mortel que je suis, je passe un peu de temps sur terre à vivre dans la chair et je meurs. Et au sortir de cette vie, j'en commence une autre. Je laisse dans la terre mon corps destiné à ressusciter, à vivre sans fin jusque dans les siècles.